Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau fichier sur Internet, donc sur le site de Marie, dans les commentaires des évangiles. À partir des Pères de l'Église, donc nous sommes au fichier qui contient les chapitres 11 à 15 de Saint Luc. Nous allons commencer par le commentaire des Pères de l'Église et de Saint Thomas d'Aquin sur le Notre Père. Il y a dans le Notre Père le résumé de tout ce qu'il nous faut désirer. Et rappelez-vous les quatre parties du catéchisme, tout ce qu'il faut croire, le credo, tout ce qu'il faut faire, les commandements, tout ce qu'il faut désirer, notre Père, et tout ce qu'il faut, les moyens pour mettre tout ça en pratique, les sacrements. Donc, notre Père est certainement la prière la plus importante que nous a léguée notre Seigneur Jésus-Christ, et en sept demandes, il résume tout ce qu'il faut désirer, tout ce qu'il faut prier, toutes les raisons pour lesquelles nous devons de prier. Donc, l'Église a retenu sept demandes ici dans ce texte de Saint-Luc. Nous en avons cinq. Je vais vous rajouter les deux qui manquent. Il arriva donc au chapitre 11 de Saint-Luc, versets 1 à 4. Il arriva, comme notre Seigneur Jésus-Christ priait dans un certain lieu, que lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprenez-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples, c'est Saint Jean-Baptiste. Il leur dit: Lorsque vous priez, dites: Père, que votre nom soit sanctifié. Première demande. Que votre règne arrive, deuxième demande. Et il manque la troisième demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis quatrième demande, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Cinquième demande, remettez-nous nos péchés comme nous remettons nous aussi à quiconque nous doit. Sixième demande, ne nous induisez pas en tentation. Et septième demande qui se rajoute, qui n'est pas dans le texte ici, délivrez-nous du mal. Amen. Donc, avant de me lancer dans les explications des pères, je voudrais un peu vous rappeler l'enseignement de l'Église avec un texte magnifique de Saint Thomas d'Aquin. Je ne vais pas tout vous lire, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous lire simplement, essayer de le décomposer rapidement au principe. C'est un sermon, en fait, une série de sermons plus exactement, que Saint Thomas d'Aquin a donné à Naples en 1273, donc il est au sommet de sa gloire, au sommet de sa sainteté, puisqu'il est mort un an après, en 1274. Et ce sermon est venu jusqu'à nous à travers des notes qui ont été prises pendant le sermon par Pierre de Andria. Donc je voudrais vous résumer un petit peu ce que dit saint Thomas, parce que c'est magnifique, et ça nous aide après à comprendre les commentaires donnés par les pères de l'Église. Donc pourquoi est-ce que l'Église... Donc je résume ici saint Thomas d'Aquin. Pourquoi est-ce que l'Église enseigne que le Notre Père est tellement important? Tout simplement parce que la prière du Notre Père possède excellemment les cinq qualités requises pour toute prière. À savoir que la prière doit être confiante, droite, ordonnée, dévote et humble. Voilà ce que dit saint Thomas. Je ne peux que vous conseiller, pour tous ceux qui peuvent l'obtenir sur Internet, d'aller lire ce texte complet du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur les explications du Notre Père. Hein? En tout, ça fait une trentaine de pages, c'est pas très long. D'abord, la prière doit être confiante. Pourquoi? Parce que l'oraison doit procéder d'une foi sans défaillance. Bon. Celui qui, avec son père, écoute favorablement cette prière est la même personne divine qui nous l'a enseignée. La prière doit être également droite. Elle doit nous faire demander à Dieu les biens qui nous conviennent. Si vous demandez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est de l'hypocrisie. Fort souvent, la prière n'est pas exaucée pour avoir imploré des biens qui ne nous conviennent pas vraiment, qui peuvent être bons pour le voisin, mais pas pour nous. Il n'est permis de demander dans la prière ce qu'il est permis de désirer pour chacun d'entre nous. Troisièmement, la prière doit être ordonnée, réglée. L'ordre convenable, dit saint Thomas, consiste en ce que nous préférions dans nos désirs et nos prières les biens spirituels aux biens corporels, les réalités célestes aux réalités terrestres. Conformément à la recommandation de notre Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, dire le manger, le boire, le vivre, vous seront donnés par surcroît. La prière doit être également dévote. La prolixité de la prière, le plus souvent, affaiblit la dévotion. Si le Seigneur nous enseigne à éviter cette prolixité superflue. Enfin, notre raison, la prière doit être humble. La véritable humilité existe quand quelqu'un attend n'attend que de la puissance divine tout ce qu'il doit en obtenir, tout ce qu'il en doit obtenir. Alors voyons un petit peu avec saint Thomas les heureux effets de la prière. Très important de comprendre ça parce que beaucoup de nos fidèles ont mal fou à prier. Donc la prière produit trois sortes de biens. Premièrement, elle constitue un remède efficace et utile contre les maux. La prière nous affranchit de la crainte des péchés à venir, des tribulations, de la tristesse, et nous délivre également des persécutions de nos ennemis. Plus exactement, nous rend fort, ferme pour lutter contre ces persécutions. Deuxièmement, la prière est aussi un moyen utile et efficace pour la réalisation de tous nos désirs. Tout ce que vous demanderez dans la prière, dit Jésus, notre Seigneur, croyez que vous le recevrez. Et si nous ne sommes pas exaucés, c'est ou bien parce que nous ne demandons pas avec insistance, ou bien parce que nous ne demandons pas ce qui est le plus utile à notre salut. Saint Paul est un exemple, car par trois fois il demanda d'être délivré d'une douleur poignante dans sa chair, un aiguillon dans sa chair, il ne fut pas exaucé. Enfin, troisièmement, l'oraison est utile, la prière est utile parce qu'elle nous rend les familiers de Dieu. Alors, le premier mot de la prière, c'est le mot « Père ».« Notre Père, que votre nom soit sanctifié ». Nous l'appelons « Père » à cause de la manière particulière dont il nous a créés. Il nous créa en effet à son image et à sa ressemblance, image et ressemblance qu'il n'imprima pas dans les autres créatures inférieures à l'homme. Image, parce que nous avons en nous une partie de notre nature qui est une partie spirituelle, l'âme, substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, mais aussi ressemblance pour tous ceux qui vivent en plus dans la charité et dans l'état de grâce qui amène en nous, sur notre âme, une imitation encore plus parfaite de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'état de grâce, nous devenons en quelque sorte des petits paradis ici-bas sur la terre, au moins de façon temporaire, tant que nous restons en état de grâce. C'est l'habitation en nous, donc, de la Sainte Trinité. Dieu mérite aussi le nom de Père à cause de sa sollicitude particulière envers les hommes dans le gouvernement de l'univers. Pour beaucoup de créatures non raisonnables, Dieu les gouverne comme des esclaves, mais nous, il nous gouverne comme des maîtres. Dieu a droit au nom du Père, au nom de Père, parce qu'il nous a adoptés. Donc une raison supplémentaire pour laquelle nous pouvons dire qu'il est notre Père. Et nous avons, puisqu'il est notre Père, envers lui une dette quadruple, dit saint Thomas. Nous lui devons d'abord, en premier lieu, l'honneur. Cet honneur consiste en plusieurs choses. La première regarde nos devoirs envers Dieu, la deuxième nos devoirs envers nous-mêmes, la troisième nos devoirs envers le prochain. L'honneur dû au Seigneur consiste d'abord à offrir à Dieu le don de la louange. L'honneur dû à Dieu consiste deuxièmement dans la pureté de notre cœur, notre corps. Il consiste enfin, cet honneur, dans l'équité de nos jugements sur le prochain. Nous devons en second lieu aussi imiter Dieu parce qu'il est notre Père. L'imitation de Dieu, pour être parfaite, demande trois choses. L'amour, la miséricorde et l'imitation de Dieu requiert également la perfection. Donc l'amour, la miséricorde, la perfection. Notre Seigneur nous l'a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous devons, enfin, en troisième lieu, l'obéissance à notre Père. Il ne s'agit pas simplement de l'adorer, mais il faut lui obéir, sinon notre adoration est fictive. Notre obéissance est fondée sur l'exemple du Christ, et le troisième motif de notre obéissance, c'est notre propre intérêt. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre ainsi quels sont nos devoirs à l'égard de nos proches. Alors voyons d'abord la première demande, notre Père qui est dans les cieux. Donc, par les dispositions nécessaires à celui qui prie, la confiance a une importance absolument considérable. Un autre motif de cette confiance, c'est la grandeur de la puissance du Père. Le Seigneur a employé l'expression « vous qui êtes dans les cieux » pour trois raisons. Pour nous préparer à la prière. La préparation à cette prière requiert aussi la contemplation des choses célestes pour que nous aspirions à obtenir ces choses célestes, justement. Les paroles qui aident aux cieux peuvent aussi se rapporter à la toute-puissance du Père pour nous exaucer. Dieu, par son regard, est clairvoyant et pénétrant parce qu'il voit très haut. Il est sublime dans son pouvoir, il est stable dans son éternité. Et ces paroles, qui aident dans les cieux, adressées à notre Père, nous donnent au moment de la prière un triple motif de confiance. Confiance qui va reposer sur sa puissance, sur l'amitié de ce Dieu que nous invoquons et sur la convenance de notre demande. D'abord, la puissance du Père que nous implorons nous est suggérée par l'expression « vous qui êtes dans les cieux ». Cette intimité de Dieu avec les hommes nous inspire deux motifs de confiance quand nous prions au Seigneur. Le premier motif s'appuie sur cette proximité divine, le deuxième motif repose sur le patronage des saints qui sont nos intermédiaires. La pensée que le Père et notre bien spirituel éternel, l'objet de notre béatitude, nous invite avec force à mener une vie céleste afin que nous lui devenions conformes. Ces deux choses, le désir de la béatitude du ciel et une vie céleste, nous disposent incontestablement à bien prier le Seigneur et à lui adresser une oraison digne de sa majesté. Donc saint Thomas va maintenant approfondir un peu cette première demande, que votre nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est d'abord admirable. Parce qu'en toute créature, il opère des œuvres merveilleuses. Puis, ce nom de Dieu est également aimable. Ici, saint Thomas d'Aquin cite saint Ignace d'Antioche. Il aima si ardemment le nom du Christ, nous dit saint Thomas, que l'empereur Trajan, l'ayant semé de renier ce nom, il répondit « Vous ne pourrez pas me l'ôter de la bouche ». Le tyran le menaça alors de lui trancher la tête et de retirer de la sorte le Christ de ses lèvres. « Si vous l'enlevez de ma bouche, répliqua le bienheureux, vous ne pourrez jamais l'arracher de mon cœur. J'ai en effet son nom gravé sur mon cœur, c'est pourquoi je ne puis pas cesser de l'invoquer. » Trajan entendit ces paroles et désirait d'en vérifier l'exactitude. Il fit trancher la tête du serviteur de Dieu, puis il ordonna d'extraire son cœur. Et sur ce cœur, le cœur de saint Ignace d'Antioche, on trouva le nom du Christ gravé en lettres d'or. Le saint, en effet, avait placé en ce nom, sur son cœur comme un sceau. Le nom de notre Seigneur doit également être sanctifié parce qu'il est vénérable, il est inexprimable. On peut quand même expliquer un peu le mot saint, que votre nom soit sanctifié, donc la sainteté qui est demandée. Le saint va d'abord veut dire ferme, solide, inébranlable. Seigneur, disait saint Augustin, je me suis éloigné de vous, j'ai beaucoup erré, je me suis éloigné de votre stabilité. En deuxième lieu, le mot saint signifie ce qui n'est pas terrestre. Par le mot terrestre, on désigne les pécheurs. D'abord parce que la terre fait germer, si on ne cultive pas, des épines et des chardons. La terre également désigne les pécheurs à cause de son obscurité naturelle et de son opacité. La terre est donc l'image des pécheurs. Troisièmement, le mot saint signifie également teint de sang. Jésus nous a aimés, nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Passons maintenant à la deuxième demande. Donc c'est un résumé de l'enseignement de saint Thomas. Donc c'est extrêmement riche. On pourrait faire des dizaines et des dizaines de sermons à partir de ce texte de saint Thomas. Deuxième demande, que votre règne arrive. L'Esprit Saint nous fait droitement aimer, désirer, demander ce qu'il convient d'aimer, de désirer et de demander. Cet esprit produit en nous d'abord la crainte qui nous porte à rechercher la sanctification du nom de Dieu. Il nous accorde ensuite un autre don, celui de de piété. Donc une affection tendre et dévouée pour un père et aussi pour tout homme plongé dans la misère. Comme Dieu est bien notre Père, nous devons donc non seulement le vénérer et le craindre, mais aussi nourrir pour lui une affection tendre et délicate. Alors comment comprendre cette demande, que votre règne arrive, cette deuxième demande du Pater? D'abord, le règne de Dieu, sous sa forme achevée, suppose la parfaite soumission de toutes choses à Dieu. Il arrive quelquefois qu'un roi ne possède que le droit de régner et de commander. Cependant, il ne semble pas encore être roi, effectivement, parce que ses sujets ne lui sont pas encore soumis. Il n'apparaîtra vraiment roi et seigneur que le jour où les sujets de son royaume lui obéiront. Nous demandons donc trois choses, savoir que les justes se convertissent, que les pécheurs soient punis et que la mort soit détruite. Donc si les pécheurs ne veulent pas se convertir, qu'ils soient détruits, dit saint Thomas. Que veut dire saint Thomas? Les hommes sont soumis au Christ de deux manières. Ils le sont ou bien volontairement ou bien contre leur gré. La volonté de Dieu possède en effet une efficacité telle qu'elle ne peut pas ne pas s'accomplir totalement. Puisque Dieu veut que toute chose soit soumise au Christ, il faudra nécessairement ou que l'homme accomplisse sa volonté de Dieu en se soumettant à ses commandements, ce que font les justes, ou que Dieu réalise sa volonté sur tous ceux qui lui désobéissent. C'est-à-dire sur les pécheurs et sur ses ennemis en les punissant. Et cela aura lieu à la fin du monde, quand il placera tous ses ennemis sous ses pieds. L'arrivée du règne de Dieu à la fin du temps sera donc aussi la destruction de la mort des pécheurs. En deuxième lieu, le règne du Christ désigne la gloire du paradis. Un gouvernement atteint son plus haut point d'excellence lorsque rien ne vient plus faire obstacle à la volonté de celui qui gouverne. Donc trois motifs rendent ce royaume de Dieu extrêmement désirable. Le premier, la souveraine justice qui y règne. Le deuxième motif qui rend ce royaume désirable est la très parfaite liberté qui y est le partage de tous les élus. Enfin, troisième raison, le royaume des cieux est on ne peut plus désirable à cause de la merveilleuse abondance de ses biens. Troisième motif de demander à Dieu la venue de son règne, c'est que parfois le péché règne, triomphe en ce monde. Il suffit d'ouvrir la porte et la fenêtre de notre maison à voir ce qui se passe dehors aujourd'hui. Dieu doit régner dans notre cœur et il y règne effectivement lorsque nous sommes prêts à lui obéir et observer tous ses commandements. Sinon, c'est l'hypocrisie. Voyons maintenant la troisième demande. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'explique cette demande bien qu'elle ne soit pas ici dans ce texte de saint Luc. On va la trouver ailleurs dans les évangiles. On verra ça plus tard. L'Esprit Saint produit en nous un troisième don appelé le don de science. Et cet Esprit Saint va rendre l'homme sage. Parmi les dispositions qui contribuent à la science et à la sagesse de l'homme, la plus importante est cette sagesse qui porte l'homme à ne pas s'appuyer sur son propre sens. Nous ne voulons rien demander à Dieu si ce n'est la réalisation de ses vouloirs sur nous, c'est-à-dire l'accomplissement de sa volonté sur nous. D'où cette troisième demande, que votre volonté soit faite. C'est ça la vraie sagesse. Dieu veut pour nous trois choses dont notre prière demande la réalisation. D'abord, en premier lieu, il veut pour nous la possession de la vie éternelle. Il veut, de volonté antécédente, sauver tous les hommes. Même si de volonté conséquente, seuls ceux qui meurent en état de grâce peuvent être sauvés. La volonté de Dieu pour l'homme est donc qu'il entre en possession de la vie éternelle. Quand une chose atteint ce pourquoi elle a été faite, on dit qu'elle est sauve. Lorsqu'elle ne l'atteint pas, on dit qu'elle est perdue. En deuxième lieu, la volonté de Dieu à notre égard est que nous observions ses commandements. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est-à-dire donc que tous les pécheurs, comme est accompli, demandons donc que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans les pécheurs, comme est accompli au ciel dans les justes. Donc on demande la conversion de tous les pécheurs ici-bas pour que tout le monde un jour puisse être au paradis. Deux choses en effet sont nécessaires pour parvenir à la vie éternelle, savoir la grâce de Dieu et la volonté de l'homme, parce que l'homme va coopérer à la volonté divine. En troisième lieu, Dieu veut pour nous que nous soyons rétablis dans l'état et la dignité dans lesquels le premier homme fut créé. Dignité et état si élevés que son esprit et son âme ne ressentaient aucune opposition de la part de la chair et de la sensualité. Cette troisième demande de l'oraison dominicale nous fait parvenir donc à la béatitude des larmes. Premièrement, Dieu veut pour nous et nous fait désirer la vie éternelle. Deuxièmement, ceux qui gardent les commandements de Dieu pour obéir à la volonté de Dieu sont aussi dans l'affliction. Troisièmement, nous avons parlé de la lutte incessante de notre chair et de notre esprit entre eux. Cette lutte est également un sujet de larmes, ce qu'on appelle le combat spirituel. Chaque nuit, c'est-à-dire aussi longtemps que durent les ténèbres de mes péchés, dit le psalmiste, de mes pleurs j'arroserai ma couche, c'est-à-dire ma conscience. Voyons maintenant la quatrième demande. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de chaque jour. L'Esprit Saint nous donne sa force et il la donne d'une part pour empêcher le cœur de l'homme de défaillir dans la crainte de manquer des choses nécessaires et d'autre part pour lui faire croire fermement que Dieu lui accordera tout ce qui lui est nécessaire. Donc, il faut demander à Dieu la sanctification de son nom, c'est-à-dire demander la reconnaissance de sa sainteté. Il faut demander l'avènement de son règne, c'est lui demander de nous faire parvenir à la vie éternelle. Et il faut aussi prier pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est-à-dire prier Dieu d'accomplir en nous sa volonté. Tous ces biens, partiellement réalisés dans ce monde, ne le seront pleinement que dans la vie éternelle. Donc, par ces paroles, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à éviter cinq péchés qui se commettent habituellement par un désir immodéré des choses temporelles. Le premier de ces péchés est que l'homme, insatiable des choses qui conviennent à son état et à sa condition, est poussé par un désir déréglé, demandant des biens qui sont au-dessus de sa condition, ce qu'on appelle la concupiscence, le désir déraisonnable de choses qui pourraient être parfois bonnes dans certains cas, mais qui ne sont pas bonnes pour nous à cause des circonstances. Le deuxième vice consiste pour certains à commettre des injustices et des fraudes dans l'acquisition des biens temporels, surtout le mensonge et le vol. Le troisième vice consiste dans une sollicitude excessive pour les biens temporels. Le quatrième vice, causé par l'appétit démesuré des choses d'ici-bas, consiste en une insatiable avidité des biens terrestres, une véritable voracité. Ce sont ces gens qui demandent non pas le pain d'une journée, mais le pain de 10 jours. Le désir excessif des biens terrestres engendre un cinquième péché, l'ingratitude. Et la richesse de ce texte de saint Thomas. Il existe en plus du pain, nourriture du corps, deux autres sortes de pain, le pain sacramentel et le pain de la parole de Dieu. Dans l'oraison dominicale, c'est-à-dire dans notre Père, nous demandons également notre pain sacramentel. C'est la Sainte Communion. Il est chaque jour préparé dans l'Église par la Sainte Messe et nous le recevons dans un sacrement en gage de notre salut futur. Nous demandons également, dans l'oraison dominicale, cet autre pain qui est la parole de Dieu, qui nous permet de communier en état de grâce. La parole de Dieu étant l'instrument qui nous amène au pain sacramentel, c'est-à-dire à la Sainte Eucharistie. Cinquième demande, remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le conseil est nécessaire à l'homme quand il est soumis à la tribulation. Le conseil de faire l'aumône et d'exercer la miséricorde est donc un excellent conseil pour effacer les péchés. Donc, au sujet de cette parole, remettez-nous nos dettes, nous pouvons nous poser 3 questions. Premièrement, pourquoi faisons-nous cette demande? Deuxièmement, quand est-elle exaucée? Et troisièmement, que devons-nous accomplir pour que Dieu l'exauce? Donc, pourquoi adressons-nous à Dieu cette demande? Remettez-nous nos dettes, pardonnez-nous nos offenses. La considération de son contenu, nous dit saint Thomas, nous permet de recueillir 2 enseignements nécessaires aux hommes pendant cette vie. Le premier enseignement, c'est que l'homme doit toujours se tenir dans la crainte et l'humilité. Ce privilège ne fut accordé à personne si ce n'est au Christ seul qui posséda l'esprit en plénitude et à la bienheureuse Vierge Marie, pleine de grâce et immaculée. Saint Augustin a dit d'elle, de cette Vierge, je ne veux pas faire la moindre mention lorsqu'il s'agit des péchés. Elle est immaculée, conception. L'autre enseignement qui ressort de cette demande, remettez-nous nos dettes, est que nous devons toujours vivre dans l'espérance. Pour répondre à cette question, quand cette dette est-elle exaucée, il faut avoir présent à l'esprit les 2 éléments contenus en tout péché, à savoir la faute, ou l'offense faite à Dieu, et le châtiment mérité par la faute. La faute est remise par la contrition, si la contrition est accompagnée du propos de se confesser, de satisfaire. Rappelez-vous les 3 conditions nécessaires pour faire une bonne confession, la contrition, le regret de ses péchés, avec la ferme propos de ne pas recommencer, l'accusation des péchés et la réparation pour les péchés commis. Les péchés sont remis quant à la faute par la contrition, et quant à la peine par la confession et par les indulgences, surtout les indulgences plénières qui enlèvent toute la peine due au péché, toutes les peines du purgatoire. faut savoir qu'il y a deux manières de pardonner au prochain. La première est la manière des parfaits. Elle pousse l'offensé à aller au-devant de l'offenseur pour lui pardonner. La deuxième manière de pardonner est commune à tous et obligatoire pour tous et consiste à accorder le pardon à qui le sollicite. À cette cinquième demande de l'oraison dominicale se rattache donc la béatitude bienheureux et miséricordieux. La miséricorde, en effet, nous porte à avoir pitié de notre prochain. Voyons maintenant la sixième demande. Je réduis au maximum, une demi-heure, je réduis 30 pages de saint Thomas d'Aquin. Rien ne vous empêche, encore une fois, d'aller chercher le texte complet pour vous exciter à l'étude de ce texte magnifique. Sixième demande, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Tant un homme, dit saint Thomas, s'est éprouvé sa vertu. Sa vertu peut être mise à l'essai ou éprouvée de deux manières, dans la ligne des exigences de la vertu humaine. Ce qui est indiqué par le psalmiste, évitez le mal et faites le bien. Donc, la vertu de l'homme sera mise à l'épreuve tantôt au point de vue de l'excellence de son agir, tantôt au point de vue de son éloignement du mal. Quid illegitis dominum, olite malum. Celui qui aime Dieu doit haïr le mal. Si je n'ai pas de haine contre le mal, je ne peux pas prétendre aimer Dieu. Donc il faut les deux choses. Si en premier lieu, on vous éprouve pour savoir si vous êtes prompt à vous porter au bien, comme par exemple à jeûner, et si on vous trouve effectivement prompt au bien, ce sera le signe que votre vertu est grande. En second lieu, pour éprouver la vertu de l'homme, on l'incitera au mal. C'est le démon qui va inciter au mal. S'il résiste fortement et ne consent pas, c'est l'indice de la grandeur de sa vertu. Mais s'il succombe à la tentation, sa vertu est manifestement inexistante. Jamais Dieu ne tente lui-même qui que ce soit en cette matière. Attention, très important. Donc Dieu ne tente pas lui-même. Il permet la tentation. Soit une tentation d'épreuve, soit une tentation de séduction. La tentation en tant que telle vient du démon. Dieu utilisant, permettant que le démon nous tente. Car Dieu est incapable de tenter de pousser personne au mal. Sa propre chair, le diable et l'homme, voici les tentateurs de l'homme. Donc comment et par qui l'homme est-il tenté? Il est tenté d'abord par la chair, qui tente l'homme de deux manières. Elle l'aiguillonne, le pousse au mal, par la recherche incessante de ses délectations charnelles, occasion fréquente de péché. En deuxième lieu, la chair nous tente en nous détournant du bien. L'homme intérieur, dit saint Paul aux Romains, en moi se délecte dans la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi. Cette loi-là lutte contre la loi de ma raison, me tient captif sous la loi du péché qui est dans tous mes membres. Donc la chair, une fois domptée, un autre ennemi va arriver, le diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit encore saint Paul, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits répandus dans les airs. Dans ses tentations, le diable, ce monde consommé en ruse, est un esprit, n'oubliez pas, c'est un ange des ténèbres, mais c'est toujours un ange, donc il comprend les choses par intuition bien plus rapidement que nous. Semblable à un habile chef d'armée, occupé à assiéger une forteresse, il considère les points faibles de l'homme qu'il veut attaquer et fait alors porter l'effort de la tentation là où il constate que son adversaire est plus désarmé. Rappelez-vous ce que dit saint Pierre, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Donc, le diable a tenté les hommes, vainqueurs de leur chair, du côté des vices auxquels ils sont le plus enclins, comme la colère, l'orgueil, les autres maladies de l'esprit. N'oublions pas que le diable connaît parfaitement notre défaut particulier, parce qu'il connaît notre tempérament. Et selon le tempérament que j'ai, je vais avoir un défaut particulier différent, et donc le diable, le connaissant très bien, va surtout attaquer par cette fissure dans le mur de protection autour de notre âme. Donc le démon, dans ses tentations, emploie, dit saint Thomas, une double tactique. D'abord, il ne propose pas aussitôt à l'homme, au moment de la tentation, un mal manifeste, mais un bien apparent, ce qu'on appelle une tentation sous apparence de bien. Ainsi, au début, il ne détourne que légèrement l'homme de son orientation générale antérieure, mais suffisamment pour ensuite l'amener plus facilement au péché. Pourquoi ? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il met sur son dos une peau de brebis. Donc, après avoir amené l'homme à pécher, Satan l'enchaîne aussitôt pour l'empêcher de se relever de ses fautes. Ainsi donc, le démon fait deux choses. Il trompe l'homme et il maintient l'homme trompé en son péché. C'est pour ça que lorsque nous avons le malheur de commettre une faute grave, eh bien, le démon va en rajouter une couche. Il va nous pousser à commettre plusieurs péchés mortels parce qu'il sait que plus nous avons de péchés mortels sur la conscience, plus il est difficile de nous relever. Parce que les racines du péché vont s'enfoncer. Le monde, au contraire, maintenant, après avoir parlé du démon, le monde, maintenant, de son côté, nous tente de façon différente. Il nous tente en premier lieu par un désir excessif et immodéré des choses temporelles. C'est-à-dire un désir, une concupiscence, un désir déraisonnable des choses temporelles. Parce que la cupidité est la racine de tous les maux. En second lieu, le monde nous incite au mal par les frayeurs que nous inspirent les persécuteurs et les tyrans. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus souffriront la persécution, dit saint Paul à Timothée. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps mais ceux qui peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Voyons maintenant la septième demande, délivrez-nous du mal, de ses adversités. Dieu nous délivre de quatre manières. Donc, ce mal vise, d'après saint Augustin, cette demande est générale, qu'elle vise différentes sortes de maux, les péchés, les maladies, les affections, les désolations, etc. Nous avons déjà parlé du péché, la tentation. Il nous reste donc à traiter des autres catégories de maux, c'est-à-dire de toutes les adversités et affections de ce monde. Alors, de ces adversités et de ces afflictions, Dieu nous délivre de quatre manières. En premier lieu, Dieu délivre l'homme de l'affliction quand il écarte celle-ci de lui, cela. Dieu délivre l'homme de l'affliction quand il écarte celle-ci de lui. Il le fait cela rarement. En général, on demande toujours à ce que toutes les tentations nous disparaissent. Et on n'est pas ici, on est dans une vallée de larmes et pas dans un paradis d'ici-bas. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est saint Paul, tous ceux qui vivent pieusement vont connaître la persécution. Au ciel, ce sera pas la même chose. On n'aura plus faim, on n'aura plus soif, jamais on ne sera accablé par le soleil, ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui est au milieu du trône, dit le texte de l'Apocalypse, les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mais ici, nous sommes encore dans une vallée de larmes. Donc Dieu nous délivre du mal par l'octroi des consolations au temps de l'affliction selon ses volontés. Privé de ces divines consolations, l'homme ne pourrait subsister au milieu des épreuves. Nous sommes là, dit saint Paul, accablés au-delà de toute mesure, au-delà de nos forces. Mais Dieu nous a consolés, lui qui réconforte les humbles. Vos consolations réjouissent mon cœur, disait le roi David, à proportion des douleurs surabondantes de mon cœur. Troisièmement, Dieu comble les affligés de tant de bienfaits qu'ils en viennent à oublier leurs maux. Après la tempête, pour ramener le calme. La légère tribulation d'un moment, dit saint Paul, nous prépare au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, car elle nous fait effectivement parvenir à la vie éternelle. Donc il ne faut pas craindre les afflictions, les tribulations de ce monde, parce que Dieu a promis qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces. En quatrième lieu, pour étendre l'idée du mal à tous les maux, Dieu tire du bien de tous les maux, tentations et tribulations. Donc Dieu ne nous fait pas dire « délivrez-nous de la tribulation », mais « délivrez-nous du risque du mal véritable qu'elle porte avec elle ». Donc les tribulations sont en effet données aux saints pour leur bien, pour leur faire mériter la couronne de gloire. C'est pour ça, dit saint Paul aux Romains, nous, non seulement nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais nous glorifions aussi encore dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la constance. Autant la tribulation, Dieu de nos pères, vous pardonnez les péchés de ceux qui vous invoquent. Dieu donc délivre l'homme du mal et de la tribulation en transformant tribulation et mal en bien. Par exemple, les tyrans qui persécutent les martyrs, eh bien, s'il n'y avait pas de tyrans, il n'y avait pas de martyrs. Et les martyrs sont au ciel. Donc grâce aux tyrans, le martyr peut aller au ciel. Alors, résumons un petit peu avec saint Thomas. C'est la conclusion de sermon de saint Thomas d'Aquin. Voilà ce qu'il dit. Pour avoir un aperçu général sur l'oraison dominicale, il faut Il suffit de savoir qu'elle contient tout ce que nous devons désirer et tout ce qu'il nous faut fuir et éviter. Or, parmi tous les biens désirables, le plus désiré et aussi le plus aimé, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi notre première demande, que votre nom soit sanctifié, est une demande de la gloire de Dieu. De Dieu, vous attendez pour vous-même trois sortes de biens. L'obtention de la vie éternelle, cette vie éternelle, vous la sollicitez par la demande que votre règne arrive. Deuxièmement, accomplir la volonté de Dieu, sa justice, est le deuxième des biens que vous désirez pour vous-même. La prière donc, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est la demande de ce deuxième bien, que la volonté de Dieu soit faite. Premier bien étant l'obtention de la vie éternelle, d'où la première demande, que votre règne arrive. Troisième bien, que vous voulez pour vous-même consiste à la possession des choses nécessaires à la vie. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Une parole du Seigneur citée par saint Matthieu se rapporte à ces trois objets de nos désirs qui sont le royaume de Dieu ou la vie éternelle, la volonté de Dieu et sa justice, les biens nécessaires à la vie d'ici-bas. Cette parole, la voici, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cette parole correspond exactement dans ces trois parties aux trois objets de nos désirs énumérés plus haut et que sollicitent les deuxième, troisième et quatrième demandes de l'oraison dominicale. Nous avons dit que le Notre Père contient également tout ce que nous devons fuir et éviter. Il faut fuir et éviter tout ce qui est contraire au bien. Le bien est ce qu'en toute chose nous désirons d'abord. Nous venons d'énumérer les quatre biens que nous désirons. Le premier, c'est la gloire de Dieu. À ce bien, aucun mal ne s'oppose. Si vous péchez, en quoi nuisez-vous à Dieu? Si vous multipliez les offenses, lui faites-vous quelque mal? Si vous êtes juste, que lui donnez-vous ou que reçoit-il de votre main? Disait Job. En effet, la gloire de Dieu résulte et du mal en tant que Dieu le punit et du bien en tant qu'il le récompense. Dieu punissant le pécheur augmente également par l'application de sa vertu de justice, il augmente sa gloire accidentelle. Le deuxième bien, le premier bien, c'est la gloire de Dieu. Deuxième bien, objet de tous nos désirs, c'est la vie éternelle. Participez donc à la gloire de Dieu. À elle s'oppose le péché. Par le péché, en effet, nous perdons la vie éternelle. Aussi, pour repousser le péché, nous disons, remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. Le troisième bien consiste dans la justice et les bonnes œuvres. La tentation s'oppose à l'une et à l'autre. En effet, les tentations nous empêchent d'accomplir le bien et pour les repousser, nous disons, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Quatrième bien désiré de nous comprend les choses nécessaires à notre vie terrestre. À elles sont contraires les adversités et les tribulations. C'est pourquoi nous en demandons l'éloignement par cette prière, mais délivrez-nous du mal. Voilà donc un résumé de tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur le Notre Père. Cela nous aide également à comprendre une chose, à mon avis, importante, c'est que au Moyen-Âge, il prêche ici en 1273, encore une fois l'année précédant sa mort, il prêche aux gens du peuple, dans les rues de Naples, ou dans une église de Naples. Regardez la profondeur de sa prédication. Eh bien, cela montre à quel point les gens du Moyen-Âge étaient bien plus intelligents que nous. Imaginez que je fasse sincèrement, en reprenant tous ces points de saint Thomas, les uns à la suite des autres comme ça, la plupart des gens décrocheraient complètement. Parce que justement, on a perdu l'utilisation de notre intelligence. Donc, nous avons près du Père un avocat qui est Jésus-Christ. Comme nous avons le Christ comme avocat auprès du Père, c'est saint Cyprien qui parle ici, pour nos péchés, dans nos demandes de pardon pour nos fautes, présentons donc en notre faveur les paroles de notre avocat. Voilà, donc j'ai résumé en quelques minutes, demi-heure, résumé donc ces magnifiques sermons de saint Thomas d'Aquin. Alors, reprenons maintenant un peu le texte des Pères de l'Église, donc page 1 du chapitre 11 de Saint-Luc sur le polycopier qui contient les chapitres 11 à 15. Donc, les deux sœurs, Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine, disent les pères, représentent les deux vies de l'Église. On a déjà expliqué la dernière fois, à savoir la vie active, Sainte Marthe, et la vie contemplative, Sainte Marie-Madeleine. La prière que le Christ enseigne contient le mystère de chaque vie. Mais la perfection de ces vies ne peut être obtenue par nos propres forces, mais par la prière qui doit être fervente et diligente, mais jamais tiède. Donc, notre Père résume tout ce qu'il nous faut désirer, et dans la vie active, et dans la vie contemplative. On ne peut pas séparer les deux. Plus une vie est active, plus elle doit être contrebalancée par le poids de la contemplation. Plus une vie est contemplative, plus elle doit aussi être équilibrée par la pratique d'une vie active. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois, je crois, que l'Église a toujours été très prudente auprès des âmes qui veulent être des âmes purement contemplatives. On ne peut pas être purement contemplatif ici-bas sur la terre, parce qu'on a un corps, il faut s'en occuper. Donc on est obligé de procéder à des choses matérielles pour s'occuper du corps. Une fois qu'on sera au ciel, on aura une âme sans corps jusqu'à la fin du monde. Et après la fin du monde, nous aurons notre corps glorieux qui va venir rejoindre l'âme. Bon. Avec un corps glorieux, il est évident qu'on peut à ce moment-là être dans la contemplation pure, parce qu'il n'y aura plus besoin de s'occuper du corps. Mais ce n'est pas encore le cas pour nous. Hein? Alors attention, quand on prie, disent les pères, il ne faut pas commencer tout de suite par des demandes. Quand vous commencez, oubliez toutes les créatures visibles et invisibles, mais on aurait celui qui les a toutes créées. Ça, c'est un problème, c'est très fréquent. Les gens rentrent dans une église, se mettent devant le Saint-Sacrement, ils disent « Voilà mon Dieu, je veux ça, ça, et ça, et ça. » Et tout de suite. Eh bien, il faut utiliser, avec notre Seigneur Jésus-Christ, ces petits mots magiques qu'on exige des enfants. Quand un enfant rentre dans la cuisine pour trouver sa mère, qui est à la cuisine, au fourneau, et que l'enfant dit « Je veux ça !» Eh bien, la maman ne donne rien du tout. Parce qu'elle exige des petits mots magiques. « Bonjour maman !» S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir cela? Sous-entendu, est-ce que ce bien que je demande de votre miséricorde, je souhaiterais l'obtenir s'il est bon pour moi? Mais s'il n'est pas bon pour moi, il est bon pour mon petit frère, que ce soit mon petit frère qui l'est. Hein? Donc attention à ces mots magiques. Et c'est pour ça que la politesse est la fleur de la charité. Quand on ne pratique jamais ces petits mots magiques, bonjour, bonsoir, merci, pardon, s'il vous plaît, on est incapable de prier. L'homme moderne est incapable de prier parce qu'il ne sait plus pratiquer ces petits mots magiques qu'on apprend quand on a 3 ou 4 ans. On n'apprend pas à un adulte de 25 ans à dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon. C'est le drame. Le drame, il est là. Donc, on parle de notre Père en appelant ainsi l'auteur de l'incorruptibilité. Mais si je ne pas... Je parle au Père incorruptible avec une vie toute corrompue. Si je prononce son nom sacré avec, donc un nom incorruptible avec des lèvres impures, je n'obtiendrai rien du tout. Au contraire, j'obtiendrai ma propre condamnation. Donc celui, disent les Pères, qui vous recommande de l'appeler Père, ne peut accepter que vous prononciez ces mensonges. La vertu de l'homme glorifie Dieu beaucoup plus que le ciel. Donc Dieu demande une vertu, ou un désir au moins de vertu avant de prier. Un pécheur peut prier. Attention, il ne faut pas tomber dans l'erreur qui consiste à dire « je vis ordinairement dans l'état de péché mortel, donc je ne prie plus ». Non, il faut continuer de prier même si on vit dans le péché mortel. Il faut prier pour supplier le bon Dieu de nous donner les grâces actuelles dont nous avons besoin pour nous sortir du péché mortel. Donc, que votre règne arrive, c'est la conséquence du fait que nous reconnaissons notre Seigneur Jésus-Christ comme Père. Donc, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre Esprit Saint vienne donc sur nous pour nous purifier. Puis, conséquence, donnez-nous donc notre pain quotidien. Ici, d'après les Pères, notre Seigneur ne parle pas trop du pain matériel, mais du pain de la vie éternelle qui soutient la substance de notre âme. Donc, ce pain quotidien, c'est le pain sacramentel, le sacrement de la Sainte Eucharistie qui contient le corps, le sang, l'âme et la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors attention, le fait que le but principal doit être pour nous l'obtention des dons spirituels, des biens spirituels, cela n'empêche pas que nous devons aussi également demander et rechercher le pain matériel. Encore une fois, la grâce ne détruit pas la nature. On ne peut pas vivre simplement dans la contemplation toute la journée. Donc on a le droit, on a aussi besoin de choses matérielles, et Dieu sait de ce dont nous avons besoin. Donc on a le droit de prier pour demander à pouvoir avoir un travail décent, pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour m'occuper des biens matériels de la famille dont j'ai la charge. Alors, les pères, ils parlent aussi de la phrase, Pardonnez-nous nos offenses, notre dette, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ben, cette dette dont nous demandons le pardon, c'est le péché. Mais quand nous tombons dans l'orgueil, nous perdons l'or de l'humilité. Et nous revenons à ce moment-là, notre dette antérieure entre les mains du démon qui tient le contrat qui nous lie à lui. Mais que le Seigneur a crucifié, annulé par son sang. Donc par sa mort sur la croix, Dieu va arracher des mains le contrat qui nous liait à lui. Il va effacer le papier par lequel je m'étais donné au démon par le péché. À chaque fois que je fais rentrer le péché mortel dans mon âme, je me donne au démon. Je deviens esclave de celui que je sers. Si je sers le démon, je deviens esclave du démon. Si au contraire, je sers notre Seigneur Jésus-Christ, je vais devenir esclave du bon Dieu dans le bon sens du terme. Alors, les commentaires ici des pères de l'Église ne sont pas toujours dans l'ordre, je m'excuse, mais il y a tellement de choses qui ont été dites sur cette partie du Notre Père que j'ai pris un peu des paroles partout. Des pères. Cette parole Notre Père, la première que dit en commençant sa prière l'homme renouvelé, qui a reçu la nouvelle naissance du baptême, qui a été réconcilié avec Dieu par la grâce de Dieu, cette parole, dit Saint Prien, l'indice d'un état nouveau, l'indice que l'homme est devenu le fils de Dieu. Et c'est parce que je suis fils de Dieu par le baptême que je peux parler de Dieu comme mon Père. Si je ne suis pas baptisé, je ne suis pas fils de Dieu. Je suis créature de Dieu, attention. Tous les hommes sont créatures de Dieu. Seuls ceux qui sont baptisés, sont fils de Dieu. Qu'on n'aurait pas le droit de dire qu'un musulman ou un bouddhiste ou un hindou sont des fils de Dieu. Non, ils sont des créatures de Dieu, attention. Même les musulmans, même les ennemis de l'Église, sont tous des créatures de Dieu. Et donc il faut, de ce côté-là, respecter ce fait qu'ils sont créés par Dieu. Mais d'être créé par Dieu, ça ne suffit pas. Il faut aussi devenir fils de Dieu, et là intervient le baptême. Ça c'est très important, parce que ce point de doctrine fondamental est absolument nié dans l'Église de Vatican II par Bergoglio. Donc, le Seigneur, en mourant sur la croix par le mystère de la rédemption, a annulé le papier qui nous maintenait en esclavage avec le démon. Il a racheté pour nous notre dette. Donc, un père, disent les pères, assure à ses enfants un héritage. Donc, quel héritage devons-nous attendre, nous, les enfants de Dieu ? Le Sauveur nous l'indique aussitôt, nous rappelant que notre Père habite dans le ciel. Le ciel est donc l'héritage que nous devons tous attendre. Donc la première chose qu'il nous faut désirer, qu'il nous faut demander, c'est le ciel. Tout ce que Dieu possède dans son ciel et son éternité deviendra le partage de ses enfants. Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est nous faire aller au ciel. Mais pour aller au ciel, première condition, c'est d'être en état de grâce, c'est d'être baptisé, pardon, première condition. Deuxième condition, d'être en état de grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés que nous sommes automatiquement en état de grâce. Sauf pour un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Qui est baptisé, il reste en état de grâce. Nous, pauvres malheureux que nous sommes, ça ne suffit pas d'être baptisé. Il faut encore être en état de grâce. Il faut fermer les écoutilles de notre âme pour que le démon, le monde, la chair, ne puisse pas nous faire dévier de notre désir qui doit être le nôtre, aller au ciel, en remplissant les conditions sine qua non pour aller au ciel, aimer Dieu, éviter le péché. Donc le royaume de Dieu existe en trois états, au ciel, dans la gloire, sur terre, en nos cœurs, et sur terre, autour de nous. C'est à ces trois états, c'est en ces trois états que nous demandons à Dieu l'avènement de ce royaume. N'oublions pas qu'il y a trois parties dans l'Église. Une Église au ciel, c'est l'Église triomphante, dans la gloire du ciel, une Église souffrante pour les âmes du purgatoire, et une Église militante pour les soldats de ce royaume ici-bas sur la terre. Donc comment pourrions-nous lui demander... Comment pourrions-nous demander que le royaume des cieux arrive si nous nous plaisons encore dans les servitudes de la terre ? Donc la première condition pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Ou tout au moins de les aimer que de façon raisonnable. C'est là où intervient le don de sagesse, la vertu de prudence. La vertu de prudence est la reine des vertus cardinales, on appelle ça le cocher des vertus, c'est l'expression de saint Thomas d'Aquin, qui va nous permettre d'utiliser les biens matériels qui sont autour de nous, donc toutes les créatures de Dieu, autant que ces créatures nous aident à aller au ciel, très bien, on peut les utiliser. Mais si ces créatures sont pour nous un obstacle à l'obtention du ciel, je dois les rejeter. Parce que si je me rends compte que c'est bien autour de moi m'éloigne de Dieu, il faut couper. Couper avec ces choses-là. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ pour expliquer ce que je viens de dire. Il dit, dans trois exemples, hein, si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la, jette-la au loin, et vaut mieux pour toi rentrer manchot au ciel plutôt que de tomber en enfer avec tes deux mains. Si ton pied droit est pour toi une occasion de péché, coupe-le, jette-le au loin, et vaut mieux pour toi rentrer pied beau au ciel plutôt que de tomber avec tes deux pieds en enfer. Puis il rajoute une troisième raison, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le, jette-le au loin, vaut mieux pour toi entrer borgne au ciel que de tomber en enfer avec les deux yeux. Et c'est pas évident d'arrêter d'aimer les choses de ce monde, parce qu'on a un droit, on a droit d'aimer les choses de ce monde, autant que ces choses ne sont pas pour nous un obstacle. Malheureusement, on voit très bien aujourd'hui, à la période de Noël, hein, j'enregistre ce cours le 28 décembre 2020, on voit très bien dans cette période de Noël comment les choses matérielles, les biens matériels sont en fait dans la pratique un obstacle à l'avancée de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Quand on rentre dans un grand magasin aujourd'hui avec tous les biens que le capitalisme propose, c'est toujours la même chose. Achète, 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 jouis des créatures, jouis, jouis, amuse-toi, fais ce que tu veux, prends possession de tous ces biens qu'on te propose. Et ces biens nous achètent. Donc, ayant reçu notre corps de la terre et notre esprit du ciel, dit saint Cyprien, nous sommes à la fois terrain, terrestre et à la fois de la terre et du ciel. De la terre parce que nous avons des biens terrestres et du ciel parce que nous avons aussi quelque chose de surnaturel en nous qui est notre âme. Notre âme est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder, connaître Dieu par l'intelligence et posséder par la volonté. Donc, nous sommes à la fois la terre et du ciel, c'est ça le problème. On n'est pas simplement des hommes du ciel, pas encore. Une fois qu'on sera au ciel, oui. Mais pour le moment, nous sommes ici-bas. C'est la formule de saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes des pauvres gens et que nous avons besoin de l'aide du bon Dieu pour aller au ciel. Mais qu'en même temps, on a besoin d'un minimum de choses matérielles. Celui qui veut faire l'ange fait la bête. Hein, pour ça que le démon est capable de nous tenter avec des tentations sous apparence de bien. Et imaginez quelqu'un qui veuille faire pénitence en réparation de ses péchés et qui ne mange pratiquement plus rien. Et bien, il va tomber d'une addiction, sera incapable de remplir sa fonction pour sur la terre. Imaginez une maman qui veut passer tout son temps qu'à prier parce qu'elle veut réparer ses péchés qui prie toute la journée et puis qui s'occupe plus de ses enfants. Les enfants grimpent au rideau dans la journée parce que personne ne les surveille, que la maman est en train de prier toute la journée. Elle manque gravement à son devoir d'État. Et donc attention à ces choses-là. Donc, il y a une lutte quotidienne entre la chair et l'esprit. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Tandis que l'esprit cherche les choses célestes et divines, la chair désire des choses terrestres. Tandis que l'esprit cherche les choses célestes et divines, la chair désire les choses terrestres. C'est pourquoi nous demandons qu'avec le secours de Dieu, l'harmonie se rétablisse entre ces deux éléments. Le problème, c'est qu'à cause du péché originel, nous sommes constamment tentés par les choses de ce monde. N'oublions pas que les trois concupiscences, elle travaille énormément, surtout aujourd'hui de plus en plus, parce que le monde moderne est un monde qui enflamme les concupiscences à longueur de journée, beaucoup plus qu'au Moyen-Âge, où l'ambiance générale est une ambiance religieuse. Ce n'est plus le cas du tout. Et donc nous avons ces trois concupiscences, hein, concupiscence des yeux, désir de tout posséder, concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, et concupiscence de l'orgueil, qui nous fait prendre pour plus que nous sommes. Et donc, contre ces trois concupiscences, eh bien, il va falloir faire pénitence. Contre la concupiscence de la chair, c'est la pénitence du jeûne. Le jeûne est la grande pénitence traditionnelle pour lutter contre les tentations d'impureté. Contre la concupiscence des yeux, ce sera l'aumône. Hein, l'aumône pour nous détacher des biens matériels. Et contre l'orgueil, il faudra la prière. Et donc, en pratiquant ces trois grandes pénitences, le jeûne, l'aumône et la prière, qui étaient les pénitences chères aux anciens, au Moyen-Âge, ces pénitences étaient énormément pratiquées. Aujourd'hui, par exemple, l'aumône n'est pratiquement plus pratiquée parce qu'on vit dans un pays où tout nous est fourni et du coup, on oublie de pratiquer l'aumône. Avant, au Moyen-Âge, c'était très clair, même dans les milieux aisés, les mamans prenaient soin d'emmener leurs enfants pratiquer l'aumône. Le samedi après-midi, en général, on voyait ça dans les familles du Moyen-Âge, la maman, qui qui venaient d'un milieu où il y avait une certaine aisance financière. Par exemple, c'était le cas, l'épouse du seigneur du château local, seigneur local qui avait des enfants, l'épouse prenait soin de prendre les enfants, par exemple, le samedi après-midi, et aller dans les parties pauvres du village, autour du château, pour aller s'occuper des malades, s'occuper des gens qui vivaient dans la misère, s'occuper des gens qui avaient qui étaient dans les maladies plus ou moins épouvantables. Et les enfants apprenaient comme ça à pratiquer la vertu de charité, chose qui est complètement disparue aujourd'hui. Vous voyez ? Alors, il faut comprendre l'importance de ces choses-là. Ce visage que nous devons laver, ça c'est en page 2 du polycopier. Ce visage que nous devons donc laver quand nous jeûnons, c'est Saint Chromas qui parle. C'est donc notre conscience qui, tournée uniquement vers Dieu par une intention pure, devient toute radieuse. Le jeûne nous ramène donc à l'état primitif où l'homme était semblable aux anges. Par le jeûne, on mortifie la chair et on redevient presque l'égal des anges. Voilà pourquoi la vertu de pureté est appelée la vertu angélique. Et la vertu, le défaut, le péché le plus opposé à la vertu angélique, c'est le péché d'impureté. Les péchés d'impureté. Et ici, les pères donnent des exemples de ce jeûne tel qu'il a été pratiqué par nos anciens. J'ai trouvé ici 5 exemples chez les pères. Le jeûne que Moïse à pratiquer pour se préparer à gravir la montagne du Sinaï, recevoir la loi du Dieu, tout enveloppé par la fumée, à entrer dans la nuit, à recevoir de Dieu les tables écrites de sa main. Il a jeûné avant. C'est le jeûne également qui prépara à leur mission les prophètes et les libérateurs d'Israël. C'est le jeûne qui repousse les tentations, qui prépare la piété, qui est le père de la chasteté, qui enseigne le courage dans les combats, le repos pour le moment de la paix. C'est le jeûne qui prépara Élie à voir Dieu dans la caverne de l'Horeb. C'est le jeûne qui le prépara au prodige qu'il accomplit. C'est le jeûne qui prépara les 3 enfants à s'offrir les flammes dans la fournaise et les rendit semblables à l'or qui devient plus pur et plus bruyant au milieu des cieux. Donc on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a pratiqué ce jeûne. Et comment il l'a pratiqué, on le voit très bien. Dans tous les moments importants de sa vie, eh bien, il commence par se mettre à l'écart et jeûner. Par exemple, avant de choisir ses apôtres, avant la passion, on voit, il s'éloigne et jeûne pour faire pénitence, non pas pour ses péchés, parce qu'il n'en a pas, et Dieu lui n'a pas péché, pour faire pénitence, cette fois-ci, pour nous, en réparation pour tous nos péchés. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que j'essaie de ne pas vous garder plus d'une heure, ce cours a été particulièrement riche avec la longue lecture de ce texte de saint Thomas d'Aquin. J'en profite, bien que pour un catholique, l'année liturgique commence au premier dimanche de l'Avent. Cependant, bon, c'est un peu la coutume aussi, à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, de présenter ses vœux. Donc je présente à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, eh bien, je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Et le premier vœu que je souhaite pour vous, c'est le vœu de sauver votre âme. Voilà, que tous, moi le premier, que nous sauvions notre âme. La première chose, la plus importante, c'est de sauver notre âme, parce que j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Et si j'ai perdu mon âme, j'ai tout perdu. Si j'ai sauvé mon âme, et j'ai tout sauvé. Donc pas simplement pour les adultes qui m'écoutent, mais qu'également les parents qui m'écoutent comprennent qu'ils sont sur la terre pour aider les âmes dont ils ont la charge, eux aussi, elles aussi, à aller au ciel. Donc ce vœu, c'est aussi pour les enfants, que les enfants suivent les parents. Il faut donc que les parents donnent le bon exemple pour que les enfants puissent aller eux aussi vers le ciel. Voilà, donc nous en sommes en haut de la page 2 du polycopier. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais beaucoup de choses à dire. Alors, la prochaine fois, eh bien, nous terminerons donc ces commentaires des Pères de l'Église sur le Notre Père, avant de continuer dans les explications que les Pères donnent sur ce chapitre 11 de Saint-Luc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Jérôme, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.